De la résistance à l'alternative, les territoires sont les bases de la transition, avec Julien Milanesi, Michel Berroco-Irigoyen et Corinne Morel-Darleux.
Donc, encore une fois, merci d'être venus si nombreuses et nombreux pour participer à cette table ronde intitulée « De la résistance à l'alternative ». Les territoires sont la base de la transition. Je m'appelle Claudine et je fais partie de l'équipe qui a organisé le Tour Alternativa depuis plus d'un an maintenant. Et je viens d'ailleurs de passer les 6 dernières semaines sur nos vélos multiplaces. Et c'est donc pour moi un grand écart que de me trouver parmi vous ici, alors que hier matin encore, je réparais une chaîne de vélo qui avait cassé pour parcourir notre dernière étape et nous rendre jusqu'à Biarritz avant la géante vélorution que nous avons faite hier. Mais c'est surtout une chance immense d'avoir pris part à ce projet qui nous a permis de traverser plus de 200 territoires où nous avons rencontré des milliers de porteurs d'alternatives et des personnes qui luttent contre des projets qui détruisent notre planète. On sent que la lutte est au cœur de ce qui nous anime aussi en même temps, et nous avons pu, au cours de ce Tour Alternativa, former plus de 2400 personnes à l'action non-violente et à la désobéissance civile. Cela nous a permis également de constater une fois encore que c'est au niveau des territoires que se situe la base de la transition. Et justement, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour qu'on réfléchisse ensemble à comment construit-on une mobilisation de masse qui entraînera la transition à partir du local. Comment passe-t-on de la résistance au monde qu'on veut nous imposer à la construction de celui que l'on désire ? Et pour cela, nous avons la chance d'avoir trois personnes extraordinaires autour de nous, qui sont Julien Milanesi, qui est maître de conférences à l'université Paul Sabatty à Toulouse, et co-auteur du livre « Résister aux grands projets inutiles et imposés ». Michel Berroco-Irigoyen, paysan, ex-président de la Laborantza Gambara, chambre de l'agriculture alternative du Pays Basque, et ex-secrétaire de la Confédération paysanne. Et Corinne Morel-Darleux, militante éco-socialiste, auteur de Carnet du Rojava dans la revue Ballast. Donc, la table ronde se déroulera en deux temps. Chaque intervenant va vous présenter sa partie. Et ensuite, on aura un temps d'échange et de débat pour raccourcir un petit peu. J'attends de savoir ce qu'on dira dans l'oreillette par rapport au timing, vu que nous avons démarré un peu en retard. Donc, tout d'abord, je laisse la parole à Julien, qui va nous expliquer comment les luttes politisent les territoires, comment les territoires politisent les luttes.
Oui, bonjour à tous, et je voudrais dire un petit mot quand même, me remercier d'abord, et puis dire bravo à tous les bénévoles qu'on voit ici, et c'est absolument admirable, c'est un moment extraordinaire, et je suis très très content d'être ici. Pardon, c'est le micro, tu dois parler plus fort, mais c'était pour remercier en plus, donc je remercie donc, et je dis bravo à tous les bénévoles, c'est un vrai plaisir que d'être là et de voir cette organisation absolument incroyable. Merci. Bon, alors je vais commencer par une toute petite anecdote qui ne va pas être très longue, mais pour vous raconter qu'il y a quelques temps de ça, il n'y a pas très longtemps, quelques mois, en fouillant dans la maison familiale, comme on fait des fois quand on rentre, en fouillant dans les affaires de gamins, je suis tombé sur un numéro de Science et Vie Junior. Je crois que cette revue existe encore. J'étais abonné à ça quand j'étais ado. Et ce Science et Vie Junior datait de 1991, c'était un hors-série, et qui titrait en gros « Planète en danger ». Et je l'ai ouvert, et, Et en fait, je vois à l'intérieur qu'il décline, alors j'en avais un vague souvenir, mais qu'il décline la crise climatique, la crise de la biodiversité, et que l'éditorial et en fait tout le contenu de cette revue, qui était donc une revue de vulgarisation scientifique pour ados, et bien en fait, on pourrait aujourd'hui le republier quasiment dans les mêmes termes. Et donc, un drôle sentiment en ouvrant ce livre, on se dit, mais en fait, cette histoire a 27 ans, ce livre a 27 ans, et on n'a pas bougé beaucoup, en fait, depuis 27 ans. Et donc, la question qu'on se pose ici, et que tout le monde se pose, en fait, et à laquelle je vais essayer un petit peu de répondre, c'est de savoir pourquoi on n'a pas réussi à mobiliser davantage, pourquoi la question écologique, finalement, alors je dis 27 ans, mais d'autres plus anciens me diraient, mais attends, dans les années 70, on disait exactement la même chose, pourquoi depuis 30, 40, 50 ans, finalement, alors que ces questions, nous les connaissons, alors qu'elles sont documentées, identifiées, pourquoi la société ne s'est pas mise en marche de façon plus... plus dynamique qu'elle l'est fait, heureusement, mis à part à Bayonne aujourd'hui. Mais donc voilà, cette question-là, c'est une des questions qui traverse le livre qu'on a coécrit donc avec trois collègues qui sont Jérôme Pellin, Cléa Sébastien et Anaïta Grissoni, qui sont respectivement géographes et sociologues, et qui est un livre donc qui est sorti l'an dernier, au mois de mai, et qui s'intéresse aux résistances, aux grands et petits projets inutiles. Et dont une thèse est que ces résistances aujourd'hui, ces luttes sur les territoires, permettent finalement de politiser la question écologique. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer, c'est-à-dire de faire rentrer réellement cette question écologique en politique. Alors, la particularité qu'on a tous les quatre, nous sommes tous chercheurs universitaires, mais par ailleurs impliqués avons été impliqués ou le sommes sur des luttes, des résistances qui nous ont amenés à nous intéresser à ces questions-là. Alors, quelle hypothèse développons-nous et que je vais essayer de vous, de vous démontrer ici, c'est que les luttes territoriales permettent donc de repolitiser à la fois la question écologique et donc d'ouvrir des voies de transformation sociale, puisque l'objectif, c'est celui-là, comme on essaye de répondre, c'est-à-dire le passage de la résistance aussi à la transformation. Alors, je vais faire ça en trois points, je ne vais pas être très original. Je vais vous faire une petite partie théorique pour voir comment on peut aborder ces questions d'écologie, pourquoi cette question d'écologie n'a pas franchi encore autant qu'on voudrait la question politique, l'espace politique. Pourquoi les luttes territoriales permettent d'avancer dans cet objectif-là et comment se construisent ces luttes. Alors donc, pour commencer, alors c'est une question qui a été traitée très 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 très, très largement. Hein, on reprend beaucoup de travaux qui existent. Pourquoi donc la question écologique ne mobilise pas davantage. Pourquoi elle ne devient pas vraiment une question politique. Alors, comme je disais là-dessus, il y a beaucoup de philosophes politiques qui ont travaillé et il y en a beaucoup qui disent pour que une question rentre dans l'espace politique, il faut qu'elle soit portée par un conflit. D'accord ? Il faut qu'elle soit portée par des agents qui vont la mener conflictuellement dans l'espace politique. Et on peut voir là un premier problème sur la question écologique, c'est que depuis des années, elle est traitée d'une façon très consensuelle. C'est ce qu'on entend, l'écologie des petits pas, etc. Fermer son robinet en se lavant les dents. Et on peut considérer que ça, c'est déjà un problème majeur. Ensuite, quel est le second problème? C'est que pour que cette question, ce conflit devienne, rentre dans l'espace politique, il faut qu'il soit porté par des sujets. Donc il faut qu'il y ait un sujet politique. Alors le sujet politique, typiquement, un exemple très simple, c'est que les questions sociales ont été portées dans l'espace politique par les ouvriers dès le 19e siècle, qui venaient défendre leurs intérêts, qui avaient identifié un adversaire. Et donc ce sujet politique, dans la question écologique, il a du mal à émerger pour deux raisons. Une qui est anthropologique quasiment, qui est notre séparation, nous les occidentaux, qu'on fait entre la nature et la culture. Finalement, ces questions-là, c'est la nature, donc ça ne nous concerne pas. Donc il n'y a pas de sujet politique. Ou alors il y en a beaucoup trop, et ça rejoint ce qu'on dit sur l'écologie, ce que je disais sur l'écologie consensuelle, c'est que ce serait tout le monde. Donc finalement, si c'est tout le monde, il n'y a pas d'adversaire. Donc déjà, difficulté de trouver un sujet politique. Ensuite, difficulté de trouver un objet politique, c'est-à-dire sur lequel on va venir porter le conflit. Pourquoi? Parce que d'abord, et on le voit ici, dans tous ces jours, il y a tellement de lieux de lutte, tellement de crises, de climat, de la biodiversité, de l'eau, sur les produits toxiques. Il y a tellement d'endroits sur lesquels se mobiliser que finalement, on est débordé et on ne se mobilise pas. Et surtout, je pense que c'est le point central, c'est que ces objets qui pourraient, sur lesquels on pourrait se mobiliser sont finalement très loin. Ils sont finalement très loin, ils sont réglés dans des négociations internationales, ils sont, et voilà, comment on pourrait intervenir sur le climat alors que c'est réglé entre quelques chefs d'État tous les 2 ou 3 ans lors de la COP 21, 22, 23, etc. Donc, pas de conflit, pas de sujet, pas de conflit parce qu'on n'a pas de sujet politique qui le porte, ni un objet politique clairement identifié. Donc, deuxième partie, comment les luttes, et pourquoi plutôt les luttes territoriales, arrivent justement à répondre à cette presque impossibilité. Alors, tout d'abord, donc, je vais reprendre les 3 catégories que j'ai définies, la question du conflit. Évidemment, les luttes territoriales, par définition, portent du conflit. C'est-à-dire vient transformer un sujet en un conflit sur un territoire et montre les intérêts divergents qu'il existe dessus. C'est-à-dire que là, on voit concrètement qu'il y a des gens qui perdent et il y a des gens qui gagnent. D'accord ? La question écologique est une question sur laquelle il y a des intérêts conflictuels et les luttes permettent de les faire apparaître. Donc finalement, ça oblige la société à s'emparer de ces questions. Notre-Dame-des-Landes, on en parlait ce matin, pour ça est un très bon exemple, c'est-à-dire que Notre-Dame-des-Landes est arrivée quasiment jusque dans les repas de Noël. C'est-à-dire que tout le monde avait un avis là-dessus, tout le monde voulait en parler, on s'engueulait dessus en famille. Mais c'est ça un sujet politique en fait. C'est quand ça arrive à ce point-là, c'est-à-dire au point où on s'engueule dessus en repas de famille. Là, c'est bon signe. Et le problème, c'est que, voilà, question écologique, voilà, Notre-Dame-des-Landes, on est arrivé à ça. Alors, donc il y a des situations conflictuelles. Par la lutte, on crée du conflit. Il y a un sujet politique qui existe là-dessus. Quelqu'un qui va porter ce conflit. C'est qui cette personne ? C'est l'habitant, tout simplement. Sur un territoire, c'est l'habitant. Alors qui, lui, pourquoi il se mobilise ? Parce qu'il est, par l'intermédiaire de son milieu de vie, tout simplement, confronté à une question qui lui tombe dessus. Alors, quelles sont ces questions ? Alors, j'aurais dû détailler un petit peu sur quoi on travaillait, évidemment. Ça va être une autoroute, ça va être une carrière, ça va être un aéroport, ça va être une ferme-usine, une grande surface, les exemples sont multiples. Mais donc, on va avoir une personne qui va être touchée, je vais revenir dessus, dans son cas de vie, mais du coup dans ses affects aussi, très profonds, et qui, du coup, va pouvoir se mobiliser parce que ses intérêts, tout simplement, sont directement mis en jeu. Et il va pouvoir aussi identifier un adversaire. Donc là, on a un sujet politique qui émerge, c'est l'habitant. Et puis, un objet politique qui devient évident, là, évidemment, c'est le territoire. D'accord ? C'est le territoire, c'est le territoire qui est mis en danger par le projet qui devient l'objet politique sur lequel on va se battre. Et ce territoire, pourquoi pour nous c'est extrêmement intéressant ? C'est que c'est sur le territoire que viennent finalement se matérialiser les crises écologiques. Ces crises écologiques qui sont vues de façon très très lointaine, comme je disais tout à l'heure, le climat, la biodiversité, tout d'un coup ça devient des choses très pratiques. C'est-à-dire la question du climat, elle est beaucoup plus concrète quand on a un projet d'autoroute dans son jardin. Tout d'un coup, concrètement, on voit ce que c'est. Le gaspillage, quand on a un projet de déchetterie à côté de soi, d'enfouissement des déchets, de suite, ou qu'on a déjà un site d'enfouissement à côté de chez soi, la société de consommation, on la voit très bien. La crise de la biodiversité, vous la comprenez très bien quand on menace de détruire la forêt à côté de chez vous, dans lequel vous allez ramasser des cèpes, dans lequel vous connaissez bien quelques espèces de plantes parce que vous y promenez depuis longtemps, que vous êtes gamin, que vous connaissez les arbres, et tout d'un coup, vous allez vous intéresser à cette question de la biodiversité qui jusque-là, ne vous avez pas traversé. Donc, en fait, les territoires et ces luttes de territoire viennent faire atterrir la crise écologique. C'est-à-dire qu'on voit concrètement que ce n'est pas quelque chose de très abstrait, c'est tout simplement quelque chose sur son territoire qui est en danger. Avec un sentiment très fort qui émerge du coup dans ces luttes, qui est l'idée que les gens aujourd'hui commencent à prendre conscience qu'ils perdent leur territoire. D'accord ? Que ces territoires sont en train de disparaître petit à petit, que les zones humides disparaissent, que de plus en plus de sols sont artificialisés, que des forêts disparaissent, etc. Et donc, l'objet politique, donc, ici, est le territoire. Donc on a ici donc, à la fois un conflit qui fait émerger la question politique, on a des sujets qui sont prêts à la porter, d'accord, à se mobiliser pour, et puis un objet très clair sur lequel ils peuvent se battre en disant en se battant pour notre territoire, on se bat pour le climat, on se bat pour la biodiversité, etc., etc., etc. D'accord ? Donc, je parlais beaucoup trop vite, en fait. Ça, je suis en avance, hein. C'est rare. Plus que 10 minutes, c'est ça ?
C'est ça.
Bon, mais du coup, je vais prendre le temps. On aura plus de temps pour discuter, après.
C'est ça.
Donc, bon, mais troisième point, vous allez me dire, tout ça, c'est très sympa, mais comment on fait ? Alors, Bah là-dessus, nous, voilà, on a essayé d'observer et de documenter un petit peu, de voir comment, comment s'organiser ces différentes luttes. Et ce qui est très intéressant pour nous dans ces luttes territoriales, c'est qu'elles mobilisent des gens qui, à l'origine, ne sont pas des militants. Il y a aussi, évidemment, des militants à l'intérieur. Mais à l'origine, elles partent quasi systématiquement par des gens qui, tout simplement, habitent dans un endroit. Donc on va appeler les riverains. C'est le terme qu'on utilise au début, c'est des riverains, mais des gens qui, pour la plupart, par expérience, pour avoir fait partie du collectif comme ça, 80% des gens qui étaient, moi je me suis battu contre l'autoroute à 65, pour ceux qui connaissent, 80% des gens qui étaient dans les assos, voire 90, n'avaient jamais eu un engagement militant, syndical ou autre. Donc ils découvraient vraiment ces questions-là. Et donc, ces gens-là, petit à petit, c'est des luttes qui durent longtemps, hein, 10, 15, 20 ans, il faut avoir la tête dure pour continuer ces luttes-là, mais ça laisse le temps de la transformation. Et alors c'est une des collègues, Léa Sébastien, qui avait écrit un papier qu'on a repris dessus, elle a observé, elle a une résistance à un projet d'un site d'enfouissement dans la Beauce. Et ce qu'elle montre, et qu'elle met en évidence, qui marche très bien sur toutes les luttes qu'on a pu observer, c'est qu'en réutilisant le terme de capital selon la façon dont on définit Bourdieu, elle dit, voilà, ces groupes vont mobiliser, construire trois formes de capitaux pendant ces 10-15 ans de lutte. Le premier, c'est un capital social, il n'y a pas d'hierarchie. Le premier, c'est un capital social, c'est-à-dire qu'ils vont créer des liens entre eux, sur le territoire. Des liens avec des gens qu'ils ne rencontraient pas jusque-là. C'est-à-dire qui habitaient au même endroit qu'eux, mais qui, pour différentes raisons, ils ne partageaient jusque-là rien avec eux. Et ces luttes font que ces gens vont se mettre ensemble, vont se rencontrer, et vont densifier socialement les territoires sur lesquels ces projets apparaissent. Et donc, et des luttes, et c'est ça qui est très intéressant, qui sont inattendues, originales. On voit par exemple en Gironde des chasseurs et des écologistes qui défilent ensemble contre les lignes à grande vitesse, parce qu'ils défendent le même territoire. On va avoir des choses qui sont peut-être moins surprenantes, mais quoique, ici au Pays Basque, des syndicalistes cheminots qui aussi se mobilisent avec des associations écologistes pour défendre le fret ou alors pour se battre contre les lignes à grande vitesse. Donc des coalitions qui jusque-là n'existaient pas et qui viennent se créer parce que y a un territoire commun qui est partagé. Ensuite, deuxième type de capital qui se crée, c'est un capital scientifique. D'expertise, c'est-à-dire que ces gens s'emparent des dossiers. On est aujourd'hui dans des sociétés où les gens sont formés, voilà, ont tous des compétences, et donc dans ces associations-là, évidemment, on retrouve toutes les compétences qu'on va trouver dans la société, et ça, c'est quelque chose de nouveau, et peut-être auquel les élus ont peu de mal à se mettre, à comprendre, ils ne comprennent pas qu'en face d'eux, finalement, ils ont de véritables experts. Des gens qui ont réussi à s'emparer des dossiers et qui, au final, sont capables de parler ou de questions très techniques qui vont être relatives aux travaux publics, par exemple, ou de questions de comptables, ou de questions de biodiversité, par exemple, sur la connaissance des milieux. Donc on a vraiment un capital savant là, qui se forme. Et puis il y a un capital qui, pour nous, est très important, en termes de capital, on pourrait revenir dessus, c'est une facilité, qui est un capital patrimonial. C'est-à-dire, pourquoi les gens se mobilisent? C'est parce qu'ils ont un attachement au territoire. Et finalement, c'est ça qu'ils partagent. Ils partagent un attachement au territoire, donc un affect commun, qui est lié à ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire c'est ce sentiment de perte du territoire, de destruction du territoire, qui va à un moment donné les faire se mettre ensemble. Mais il faut bien comprendre que cet attachement, c'est vraiment ce qui est premier. On vient défendre son territoire parce qu'on l'aime. Et sur un territoire, finalement, de façon très large, comme je disais socialement, on peut réunir de façon très large parce qu'on est très nombreux à partager ce sentiment d'attachement au territoire qui se construit, qui n'est pas quelque chose dont on hérite ou autre, mais qui se construit simplement par le fait d'habiter quelque part. Alors, j'en suis où ? 5 minutes, c'est bien. Et ce qui est intéressant, c'est que cet attachement se renforce par la lutte. C'est-à-dire qu'on a un phénomène là d'auto-alimentation de l'attachement, c'est-à-dire que plus on défend un territoire, et plus on va s'y attacher. Et donc, petit à petit, le territoire se transforme aussi de cette façon-là. Ce qui m'amène à la conclusion. Ces trois capitaux, finalement, viennent se fonder, viennent créer ce que Léa appelle un capital politique. C'est-à-dire que, petit à petit, les gens qui partaient de la défense de leur jardin, arrivent dans une situation où ils ne défendent plus leur jardin. Ils défendent une vision de l'intérêt général, d'accord, parce que maintenant, ils sont savants, ils connaissent les sujets, ils ont lié des relations et donc ils sont mis dans un collectif qui permet de revendiquer aussi au-delà même de leur territoire. Et ils viennent se placer dans un espace de débat qui dépasse concrètement et très directement leur territoire local. Et ça, on l'observe un peu sur toutes les luttes. Très rapidement, c'est des gens qui viennent de se réunir au niveau national, ensuite viennent essayer de prendre part à des débats. Par exemple, on se bat au début contre une autoroute et puis au final, eh bien, on vient réfléchir à la politique des transports et venir souhaiter intervenir dans la politique des transports au niveau national. Ça, c'est un parcours qui est très classique. Et donc, ces gens-là viennent... construire des imaginaires, c'est une idée, je pense qu'il faudra peut-être qu'on en reparle, mais très importante, c'est-à-dire des imaginaires aussi concurrents de celui qu'on leur propose. C'est-à-dire des visions du futur, des visions d'intérêt général, on pourrait dire, mais des visions imaginaires d'un futur qui pourrait être différent. Parce que tous ces capitaux les ont amenés finalement à une conscience politique, pour le dire de façon autre, qui est beaucoup plus importante. Alors, si on résume, donc, ces luttes donc, font atterrir la question écologique. Pourquoi ? Parce qu'elles conflictualisent ces questions-là. Et en ça, donc, elles sont un puissant vecteur de transformation. Et elles transforment quoi ? À la fois les individus. On n'est plus du tout pareil quand on a vécu ces histoires-là. Et les gens ne rentrent pas chez eux. C'est ça qui est intéressant. C'est que derrière, que le projet soit fait ou qu'il ne soit pas fait, que ça soit une victoire ou une défaite, ce qu'on observe quasiment systématiquement, c'est que les gens continuent. Alors ils vont continuer ou alors en allant retrouver une autre lutte ou alors se mettre sur une autre lutte sur leur territoire. Les gens qui se battaient contre l'autoroute, là je l'ai appris cette semaine chez moi, se mettent à se battre sur la question des pesticides par exemple. Ou alors ils se mettent à construire des alternatives. Et là c'était il y a 15 jours, j'ai appris qu'il y avait un groupe qui se battait contre les gaz de schiste anéro qui aujourd'hui est un groupe qui s'est transformé pour devenir un groupe qui porte un projet d'énergie citoyenne, d'énergie renouvelable citoyenne. Et ces gens-là viennent de ces luttes territoriales. Donc, c'est en ça qu'on croit nous, au caractère fécond de ces luttes, c'est que non seulement elles s'opposent à des projets auxquels il faut s'opposer, mais en plus, elles transforment profondément les individus, les territoires, et les territoires ne sont plus les mêmes une fois que ces luttes ont lieu dessus. Donc, je terminerai en disant que souvent, on me demande, les étudiants, par exemple, plus jeunes, qui me disent, voilà, mais sur quoi il faut s'engager ? Voilà, quelle est la question prioritaire ? Je ne dirais pas moi qu'il y a une question prioritaire, c'est-à-dire il faut s'engager à côté de chez soi. Il faut s'engager à côté de chez soi, rejoindre ces luttes. Il y en existe partout aujourd'hui, et ça, c'est une bonne nouvelle. On a fait un petit peu le tour de France avec ce livre et un film qu'on avait sorti avant, où du coup, on a rencontré plein de collectifs. Et en fait, c'est incroyable le nombre de collectifs qui se créent aujourd'hui pour contester ce que je vous disais, une carrière, une grande surface ou quoi que ce soit. Et donc, il faut rejoindre ces modes de lutte. Il y a de la place pour tout le monde à l'extérieur parce qu'on peut se contester juridiquement, on peut contester en occupant physiquement le territoire selon son envie, son goût. Et donc, il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Et je vous invite très fortement à renforcer ce mouvement qui fait qu'en France, on peut de moins en moins bétonner en paix.
Bonjour. Bonjour. Donc moi je vais aborder sans jouer au donneur de leçons et sans vouloir donner, parce que je n'en ai pas et puis ça n'existe pas, un mode d'emploi pour que les territoires soient en résistance et réussissent leur résistance. C'est un certain nombre d'éléments matériels et immatériels, d'ingrédients qui aident à la réussite, qui peuvent aider et qui doivent aider à la réussite des luttes. Et les luttes étant toujours, on vient de le voir là, mais les luttes étant toujours deux faces. La médaille lutte a deux faces, c'est-à-dire la face de la résistance et la face de la proposition de l'alternative. L'une nécessite l'autre. Alors, on parle de territoire et j'aimerais d'abord peut-être définir, à partir de ce que je sens, à partir de mon expérience, j'ai pas fait une étude sur toutes les luttes qu'il y a eu, mais il me semble qu'un territoire, c'est une personne morale. Je veux dire, c'est une personne morale, c'est une identité morale, c'est un périmètre, c'est une forme, c'est une géographie, c'est un nom, tu vois, c'est une histoire. Et donc, un territoire, c'est pas que l'espace. c'est un espace plus un sentiment d'appartenance. On se sent d'un territoire. Et d'ailleurs, on peut se sentir de plusieurs territoires. On peut être d'un territoire restreint, qui est relativement homogène, et puis un territoire, en même temps, un territoire plus large, qui est moins homogène, mais où on rencontre d'autres personnes, d'autres réalités. Mais je pense que c'est important, quand on parle de territoire, de s'identifier dans sa tête, et puis dans sa tête, et puis dans la réalité, ce qu'est cet espace-là, cet espace qui est une personne morale. J'ai parlé tout à l'heure, je crois, c'est un espace où il y a un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que la notion de sentiment d'appartenance, c'est une notion que certains peuvent considérer comme étant maniée avec précaution, l'appartenance, enfin, etc. Moi, je pense qu'il faut l'assumer, c'est une réalité, on est de quelque part, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est que de là, mais on est de quelque part. Et c'est important, dans une lutte, dans une résistance, c'est important d'avoir cette dimension-là. Dans l'intervention précédente, tu as parlé de sentiment d'attachement, bon, c'est une autre façon peut-être de dire la même chose. Le territoire, c'est un peu le niveau intermédiaire entre plusieurs terrains. Il y a d'abord le premier terrain, le plus petit territoire, j'allais dire, c'est soi. Je suis le plus petit territoire que je connaisse et je suis le premier territoire de résistance et d'alternative. C'est moi, c'est mon espace. Le territoire dont on parle, hein, plus géographique, plus pays, j'allais dire, c'est un niveau au-delà qui est le niveau un peu intermédiaire donc, entre ce que je suis et puis le global, le macro. Et bien, ce territoire intermédiaire dont j'éprouve un sentiment d'appartenance, bien, ce territoire, il a des droits. Et c'est au nom de droits, des droits de ce territoire que je me parle aussi. C'est pas qu'un lieu de passage, c'est pas qu'un espace, encore une fois, vide, sans âme, sans prétention. Non, c'est un espace qui a des prétentions, qui a des ambitions et qui a des droits. Et c'est au nom, alors je fais juste une petite déclinaison en tant que paysan, mais c'est au nom des droits des territoires, de tous les territoires quels qu'ils soient, qu'on revendique, par exemple au niveau agricole, la répartition des droits à produire, du droit à produire. La répartition de tous les territoires, qu'ils soient pauvres ou riches, qu'ils soient de zones difficiles ou pas, tous les territoires ont le droit de participer à la production alimentaire globale. Il n'y a pas de territoire exclu au nom de prétendus critères de marché, de rentabilité, etc. Hein? Donc, on voit bien ce niveau intermédiaire. Et puis après, il y a le niveau global, c'est-à-dire celui qui nous rejoint tous, celui qui nous rejoint tous les territoires et tous les pays. Et tout ça est lié. Hein? J'ai saucissonné à trois niveaux ou à trois tranches un ensemble qui est cohérent et un ensemble qui doit être cohérent et que l'on doit veiller à ce qu'il soit cohérent et on doit veiller à ce qu'il y ait cet ensemble parce que le territoire, si c'est que du local, sans la dimension universelle, c'est du localisme. Mais à l'inverse, si on est dans le global et dans l'universel, sans avoir les pieds sur terre, et comme disait l'autre jour quelqu'un, on pense avec ses pieds, quand ils sont posés sur un territoire, sur une terre, eh bien on est ensemble si on n'a pas cette dimension-là. Et donc, voilà, ça c'est important parce que moi je crois que c'est une des conditions de réussite des luttes de résistance et des alternatives. Alors, la résistance des territoires par rapport à un projet donné, pour qu'il y ait dans ces buts-là, pour qu'on puisse espérer gagner, il faut plusieurs conditions, mais notamment il faut arriver à à réunir, à rassembler au niveau du territoire, à créer de l'adhésion au niveau du territoire. Et donc, comme ça vient d'être dit, c'est des gens qui étaient engagés ou qui sont engagés, qui sont rejoints par d'autres personnes qui n'étaient pas engagées, qui se sentent concernées parce qu'on vient poser un problème chez eux. Chez eux, peut-être pas chez eux personnellement, mais chez eux en tant que territoire. Donc, il faut qu'il y ait cette adhésion, cette force qui se constitue, qui s'élargisse, qui se diffuse au niveau du territoire. Mais il faut aussi que le combat de ce territoire soit soutenu ou au minimum compris ailleurs. Pour qu'un territoire gagne, il faut qu'il y ait un soutien, souvent, dans les grands combats, il faut un soutien qui vient d'ailleurs aussi. Il faut que ça soit un problème, il faut que la cause pose un problème au-delà du territoire. Et pour que la cause, le combat d'un territoire pose un problème au-delà, il faut que les gens qui sont ailleurs s'identifient à ce combat-là. C'est-à-dire que le combat qui est mené dans un territoire doit être une déclinaison locale d'un problème global, une problématique globale. Et il y a une déclinaison locale ici qui se présente sous forme d'un problème qui est posé, un projet soit d'autoroute, etc. Mais il faut que les gens d'ailleurs comprennent que le combat qui est mené là, c'est leur combat aussi, quelque part. Et c'est ça qui va favoriser cette question d'adhésion et de soutien indispensable pour gagner un combat. Et évidemment, de la même façon, il faut que l'alternative que porte un territoire, il faut que ça soit une déclinaison locale, territoriale, d'une alternative globale à laquelle s'identifient les autres territoires ou les autres personnes ou militants. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire le lien. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire le lien et il n'y a que comme ça qu'on peut dépasser des conflits qui peuvent être perçus, sinon, comme de l'autodéfense, de la défense d'intérêts, du localisme, comme je disais. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre les combats qui sont politiquement les bons, ou en tout cas les combats de fond par rapport à la question environnementale, climatique, etc., par des combats qui sont peut-être juste, moi je veux pas de tel projet chez moi, mais s'il est 50 km de là, ça ne me gêne pas. Donc, c'est la vérification de la valeur du combat et de la dimension politique du combat qui est faite par le fait que d'autres ailleurs s'identifient à ce combat. Voilà. Donc tous les combats que l'on mène, toutes les résistances et tous les projets que l'on a, d'une façon ou d'une autre, en tout cas celles qui valent le coup d'être portées, c'est celles qui sont des déclinaisons locales, en résistance ou en projet, de projets globaux, d'une vision globale de la société que les uns et les autres partagent. Voilà. Et si on n'a pas cette condition-là, c'est mal barré. On peut gagner des combats où il n'y a pas cette condition-là, mais c'est parce que, peut-être parce qu'on a la force d'imposer ou d'interdire, mais c'est pas forcément parce que c'est des combats justes. Et un combat, pour qu'il soit gagné, il faut qu'il soit juste. Et cette justesse, elle est appréciée selon la grille que j'ai donnée collectivement. J'ai encore un peu de temps, donc je vais expliquer, décliner ça à partir de ce qu'on a vécu au Pays Basque, et notamment dans le domaine agricole. On a on m'a présenté tout à l'heure comme ancien président de la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. Donc, on a créé une chambre alternative en 2005, donc janvier 2005, ça fera bientôt 14 ans. On a eu un gros conflit avec l'État, au niveau du pénal, etc. Ça a été un gros conflit. Et donc,
quand on dit qu'il faut qu'il y ait conflit, là il y avait conflit. Là il y avait vraiment conflit. Et effectivement, le conflit, c'est, encore une fois, il faut qu'il soit compris et partagé. Quelque part, il faut qu'il soit labellisé juste, pas seulement par ceux qui le portent, mais par au-delà. Mais c'est ça qui permet de poser des problèmes et de trouver les réponses et de créer des solidarités. Parce qu'on sait bien que n'existent que les problèmes qui sont posés. Tous les autres problèmes, ils ont beau exister, s'ils ne sont pas posés, ils n'existent pas. Donc il n'y a pas de délégué. Et un problème, pour qu'il soit posé, il faut qu'il pose le problème. Si le problème ne pose pas problème, il n'y a pas de problème. C'est ça, ça c'est essentiel, ça. Ça c'est essentiel. Il y a des tas de causes justes, des tas de situations graves, des tas de situations dramatiques qui ne posent aucun problème parce qu'ils ne sont pas posés et qui ne posent pas problème. Donc il faut trouver dans les luttes territoriales, dans les résistances, il faut trouver le moyen pour que ce problème pose problème. Ce qui va au-delà du simple fait de poser le problème. Voilà. Donc, il faut réfléchir à ça, mais s'il n'y a pas ça, il manque les ingrédients essentiels. Donc nous avons lancé le combat pour une chambre d'agriculture en Pays Basque. Alors, imaginez, par rapport à ce que je viens de dire, c'est quand même a priori, on pouvait considérer qu'on était mal barré pour élargir la lutte. Parce que ça fait agricolo-agricole et basco-basque. On peut, avec ça, on peut faire des choses localement. On peut faire des choses sur le terrain paysan. On peut faire des choses au niveau du Pays Basque. Mais comme je l'ai dit, et notamment on avait l'État en face, avec son représentant, son gouverneur local, il fallait que la lutte dépasse nos frontières géographiques et nos frontières professionnelles. Et donc il a fallu expliquer que notre histoire de chambre basque, ou au Pays Basque, parce que ce n'était pas une chambre basque, c'est chambre au Pays Basque, ça les concernait, ça concernait tout le monde et ça concernait les gens qui étaient sur Paris, dans d'autres régions, et on a passé énormément de temps à expliquer à des personnes bien ciblées, des réseaux ciblés, etc. Mais en se disant, on ne peut gagner que si on dépasse nos frontières. Et donc là, c'est l'exercice concret de ce que je dis tout à l'heure dans l'absolu, c'est que les combats que l'on mène sur un territoire, pour qu'ils soient partagés au-delà et qu'ils soient soutenus et qu'ils soient en situation de gagner éventuellement, parce qu'on ne gagne pas chaque fois, c'est que les autres s'identifient à ce combat. Alors comment faire pour que des gens qui ne sont pas paysans, qui ne sont pas du Pays Basque, souvent on s'adressait quand même à des gens qu'on considère entre guillemets progressistes, quand même, on est dans ce courant-là. Bon, chacun a sa définition, mais il a fallu expliquer que c'était une déclinaison locale de quelque chose auquel ils tiennent tous. Quand on parle de chambre d'agriculture, la chambre d'agriculture, c'est quel type d'agriculture? Quel type d'alimentation? Quel type de biodiversité? Quel type de paysage? Quel type de relation entre le nord et le sud? Parce que l'agriculture est au cœur de toutes les questions. De toutes les questions. C'est la question transversale la plus, je pense. En tout cas, c'est une question transversale majeure. Donc il a fallu expliquer que notre histoire de chambre d'agriculture, c'était juste un outil dont le but était de porter cette question de façon transversale, de façon politique, au Pays Basque. Et donc ça les intéressait, parce que ce n'était pas que notre histoire. Et le fait de la poser au niveau du Pays Basque, eh bien, ça a été d'expliquer que, eh bien, même si on est dans des ensembles plus larges, et ce qui ne nous pose aucun problème, nous sommes de quelque part, nous sommes d'ici, avec une histoire, avec des projets, avec une volonté de construire ce pays-là. Et que le fait d'être de quelque part, c'est la condition d'être d'ailleurs aussi. Et que c'est un élément constitutif, le local est un élément constitutif du global. et que chacun a intérêt, parce que souvent au nom du progressisme, au nom des valeurs avancées, on a étouffé le local, on a étouffé qui on était. On a étouffé parce que tout ça, c'est des notions un peu dangereuses qui sont récupérées. On sait bien par l'extrême droite ou au-delà. Mais il faut qu'on se réapproprie ça. On est de quelque part, on veut de quelque part, on vient de quelque part, on va quelque part. Et il y a un terrain sur lequel on a prétention à définir ce qu'on veut être. Ce qu'on veut être. Et donc, tout ça, il a fallu expliquer. Donc, c'est une double complexité quand même, au-delà du Pays Basque, de vouloir expliquer un truc qui a priori paraissait agricolo-agricole et basco-basque. Et je pense qu'on a réussi, à faire passer le message, parce qu'on est arrivé à démontrer qu'en fait, ce pour quoi on bataillait ici, c'était juste, je le répète, mais une déclinaison locale de ce qui pour eux est essentiel. Et que chacun doit faire chez lui, dans son territoire, dans sa profession, là où il vit, chacun doit faire la déclinaison locale de ces valeurs qui nous sont communes, et de ce projet, même s'il n'est pas défini, de ce projet qui nous est commun. Et c'est ça, moi je crois que ça c'est un élément, alors ce n'est pas la garantie de succès, mais c'est un élément essentiel des combats que l'on doit mener, et c'est un élément essentiel des combats qui nous concernent aujourd'hui par rapport à la justice climatique, par rapport au changement climatique, par rapport à un vivre ensemble, etc. Moi je pense que on doit arriver à faire la connexion entre ce que je suis, ce que je veux, moi ou mon territoire, par rapport à ce que nous voulons collectivement et par rapport à la seule planète dans laquelle on vit. Et on peut, je pense, comme ça, on peut aller très loin, on peut aller jusqu'au niveau planétaire, jusqu'au niveau... il n'y a plus de pays du Sud et du Nord, etc. Voilà. Donc, je n'ai pas de solution, mais j'ai un certain nombre de sentiments, de sentis, qui font que si on va plutôt, si on agit plutôt comme ça, il y a plus de chances d'agglomérer, de réussir. Et si on agit différemment, eh bien, on a peu de chances de réussir. Et chaque fois qu'on ne réussit pas, c'est les autres qui s'avancent.
Merci beaucoup pour ces deux interventions. Juste avant qu'on passe à la troisième intervention, sachez qu'il y a une couche, c'est-à-dire une corbeille à dons qui va circuler à travers les rangs, parce que il faut participer, c'est nécessaire qu'on participe tous aux frais généraux qui ont été investis pour faire ce super village d'alternative, ce village alternative à Bayonne, ainsi que l'arrivée du tour. La météo ne nous a pas trop aidé, elle n'est pas trop au rendez-vous. Donc, si chacun peut participer, il y en a bien besoin et on vous en remercie par avance. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'un territoire un peu plus lointain, mais qui est aujourd'hui en train de vivre une expérience qui recouvre des dimensions qui, elles, sont assez proches, finalement, des différents débats qu'on a ici et des soucis que l'on rencontre plus largement. Comme le disait Michel à l'instant, je crois moi aussi beaucoup aux allers-retours entre le local et l'universel, ou en l'occurrence l'international, et à l'importance de recevoir des soutiens d'ailleurs. Et c'est dans le cadre de ce soutien internationaliste que je me suis rendue au printemps dernier en Syrie, plus précisément dans la Syrie du Nord, sur un territoire qui s'appelle le Rojava, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, mais je vais quand même donner quelques éléments de contexte pour que chacun puisse situer de quoi on parle. Le Rojava, c'est donc un territoire qui s'est déclaré autonome de facto, donc qui n'est pas reconnu aujourd'hui en tant que territoire autonome par le régime syrien ni par ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale, mais qui, depuis maintenant plusieurs années, fonctionne sur des bases d'autonomie en matière notamment administrative, mais j'y reviendrai. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, ça ne vous aura pas échappé, on parle de la Syrie. Donc on ne parle pas d'un territoire totalement neutre en termes de situation géopolitique. Et donc, ce territoire du Rojava, c'est un territoire qui est passé par toute une succession de conflits armés, puisqu'il y a eu la révolution syrienne contre le régime de Bachar el-Assad. Il y a ensuite eu, bien sûr, la guerre contre Daesh, contre l'État islamique. Et puis, plus récemment, j'y reviendrai aussi, la résistance et la lutte armée contre l'invasion par l'armée turque sur le territoire syrien, notamment dans le canton d'Afrin, qui a eu lieu au début de cette année et qui, là aussi, évidemment, est une violence particulièrement dure et éprouvante pour les populations locales. Alors, pourquoi je vous parle du Rojava et pourquoi aller en Syrie en ce moment, ce qui est quand même pas, pour être tout à fait honnête, le premier truc qui vous passe par la tête quand vous cherchez une destination, même en matière de solidarité internationale. Alors d'abord parce que moi ça faisait déjà 2 ans que j'allais de manière régulière en Turquie pour suivre, dans le cadre de missions d'observation internationale, un certain nombre de procès politiques. Suite à la répression très importante qui a été mise en place par le régime turc de M. Erdogan contre un certain nombre d'opposants politiques, et singulièrement parmi ces opposants politiques contre les populations kurdes et contre le seul parti politique qui aujourd'hui les défend en Turquie, qui s'appelle le HDP, qui a vu un certain nombre de ses députés, de ses maires, de ses élus et de ses militants raflés et incarcérés et soumis à des procès qui sont aujourd'hui des parodies de justice. Et donc, à force de côtoyer ses camarades du HDP et ses militants kurdes, j'en suis venue à m'intéresser plus justement à cette fameuse question kurde. Et donc à découvrir petit à petit que le peuple kurde, qui est un peuple qui a sa culture, qui a sa langue, qui a son histoire depuis très longtemps, à qui il avait été promis en 1920 au moment du traité de Sèvres un État kurde indépendant, est aujourd'hui un peuple qui est disséminé sur 4 pays différents, puisque vous avez des populations kurdes importantes en Turquie, en Syrie, mais aussi en Irak et en Iran. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les revendications du peuple kurde à avoir un État indépendant ont été vivaces pendant toute une période, et aujourd'hui commencent à muer vers des revendications, au moins pour les Kurdes de Turquie et de Syrie, qui ne sont plus des revendications d'indépendance, mais de ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique, c'est-à-dire concrètement, et c'est le cas du Rojava, puisque aujourd'hui il n'y a pas d'autres exemples de territoires kurdes autonomes, une sorte d'auto-administration, et je tiens à préciser tout de suite, à ce stade de mon exposé, qu'il ne s'agit pas d'une auto-administration par les Kurdes, pour les Kurdes. C'est-à-dire que concrètement, sur ce territoire de Syrie du Nord, il y a des Kurdes, il y a des Arabes, il y a des Syriaques, il y a des religions très, très diverses. Je précise au passage qu'il y a des Kurdes musulmans et des Arabes chrétiens, contrairement aux idées reçues qu'on pourrait avoir ici. Et donc, il y a ce brassage multiculturel sur place, qui fait partie intégrante aujourd'hui du projet justement de confédéralisme démocratique du Rojava, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé d'une situation d'oppression réelle, puisque les Kurdes n'avaient pas le droit par exemple de parler leur langue sous peine d'emprisonnement, on n'est pas passé d'une oppression contre les Kurdes à une situation inverse d'oppression des Kurdes sur d'autres minorités installées sur le territoire. Et aujourd'hui, au Rojava, par exemple, le service d'éducation publique qui s'est remis en place, s'est remis en place sur la base de manuels scolaires et de cours dispensés dans trois langues différentes, en kurde, en arabe et en syriaque. Donc, ça c'est un aspect multiculturel qui évidemment est extrêmement intéressant, mais qui n'est qu'un aspect de ce qui est en train de se mettre en place au Rojava, qui en réalité, et pour une fois le terme n'est pas usurpé, s'apparente plus à une révolution qu'à une transition ou même une bifurcation, puisque en ce moment on explore tous les mots possibles pour indiquer qu'il faudrait changer de direction. Puisque j'ai évoqué effectivement le système d'éducation, j'ai évoqué le système évidemment très compliqué de conflits armés permanents dans lequel tout ça se passe. C'est d'ailleurs dans le cadre de la guerre qu'on a commencé à entendre parler des Kurdes, et singulièrement des femmes kurdes, ces fameuses combattantes féminines des unités de protection, puisque c'est comme ça qu'elles se nomment, les YPJ, dont on a beaucoup entendu parler, notamment au moment de la libération de Kobané, qui était occupée par Daesh et qui a été libérée donc, par ces unités de défense féminine. Et c'est pas un hasard, puisque cette question de la place des femmes a joué un rôle absolument central dans la révolution au Rojava, puisque cette révolution a été inspirée notamment par un personnage qui est un personnage majeur pour les Kurdes et notamment au Rojava, qui est Abdullah Öcalan, dit Apo, considéré comme l'oncle, Apo c'est le diminutif pour oncle en kurde, de tous les Kurdes, hein, qui est incarcéré à l'isolement sur une île turque depuis là aussi des années, et qui de sa prison a beaucoup lu, beaucoup échangé, notamment avec un écologiste américain qui s'appelle Murray Bookchin, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'écologie sociale, de municipalisme libertaire et de confédéralisme démocratique. Et tous ces échanges, toutes ces lectures ont amené à un changement en termes de théorisation politique tout à fait notable du côté d'Öcalan et du côté du mouvement kurde dans son ensemble, et notamment de sa branche armée, le PKK. PKK qui continue à être considéré comme une organisation terroriste, évidemment par la Turquie, ce qui est le motif d'incarcération et d'inculpation, mais aussi, là aussi, de manière plus générale, par l'Union européenne, par exemple, sachant qu'un certain nombre de... le Tribunal permanent des peuples, qui s'est réuni à Bruxelles au mois de mai, et d'autres instances de justice plus ou moins officielles, ont requalifié, elles, le PKK, non pas de groupe terroriste, mais de groupe de résistance armée, ce qui est évidemment totalement différent, à la fois en termes de droit international, mais également en termes de légitimité. Je referme la parenthèse. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces échanges, comme je disais, avec le Rétachin et avec d'autres, et puis l'évolution du mouvement et du monde en lui-même, ont fait petit à petit évoluer cette organisation du PKK, qui se définissait comme une organisation marxiste-léniniste, vers une organisation qui a abandonné, ou en tout cas qui a cessé de se revendiquer du marxisme-léninisme, pour aller justement vers ce confédéralisme démocratique très fortement teinté de féminisme et d'égalité de genre. Ce qui, évidemment, je le rappelle, on est au nord de la Syrie, au confluent des différentes frontières avec la Turquie et l'Irak, en pleine période de Daesh. Vous imaginez bien que tout d'un coup porter dans ce territoire-là la question du féminisme, de l'égalité des genres, le tout teinté d'anticapitalisme et d'autogestion, est une situation assez inédite et qui est loin évidemment d'aller de soi. Et c'est en ça que, évidemment, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui au Rojava nécessite toute notre attention. D'abord, tout notre soutien, parce que la situation continue, vous le savez, à être extrêmement conflictuelle, pour ne pas dire plus, en Syrie. Aujourd'hui, l'armée turque est présente sur le territoire syrien dans ce canton d'Afrin, mais elle bombarde également des positions supposées kurdes au nord de l'Irak. Et tout ça est pour l'instant suspendu à des négociations et à des pourparlers entre la Turquie, le régime syrien et les différentes puissances occidentales présentes sur le sol syrien. Et elles sont nombreuses, vous le savez. Nous avons des troupes françaises qui sont présentes sur place, il y a des troupes américaines, les Russes sont évidemment très présents aussi. Donc le sort finalement de ce territoire autonome du Rojava est étroitement lié au résultat de ces différentes négociations qui ne portent pas uniquement sur le sort de la population kurde et la question du rôle des femmes dans la société, mais évidemment à d'autres enjeux, notamment liés à l'accès à un certain nombre de puits de pétrole, mais pas seulement, aussi à toute l'influence en termes de géostratégie dans cette zone du Proche-Orient. Donc, besoin évidemment de notre soutien, et puis... Enfin, je dis évidemment, parce que moi, ça me semble évident, mais on peut évidemment en discuter. Mais en tout cas, besoin de soutien, et puis besoin aussi de continuer à développer l'effort révolutionnaire, parce qu'il ne s'agit pas de présenter le Rojava comme étant une espèce d'Éden accompli, où tout d'un coup, la révolution s'est faite, où tout serait parfait, loin de là. D'abord parce que on ne change pas les mentalités comme ça, notamment sur la question des femmes. Il faut voir d'où on part. C'est-à-dire que moi, les femmes que j'ai rencontrées là-bas, clairement, sont des femmes qui, jusqu'à il y a quelques années, ne sortaient pas de la maison. Et qui aujourd'hui se retrouvent, parce qu'il y a un principe de parité qui a été mis en place, notamment dans les comités de quartier et dans les assemblées régionales, se retrouvent à faire leur entrée en politique, se retrouvent à faire leur entrée en économie aussi, puisqu'il y a tout un programme, tout un tas de dispositifs pour aider les femmes à monter des coopératives et à se procurer une activité, une rémunération, une autonomie aussi financière par ce biais-là. Donc évidemment, tout ça ne va pas sans heurts. Et naturellement, moi, je suis allée dans un village de femmes qui s'appelle Ginoir, qui est un village, pour le coup, deux femmes exclusivement dans sa gestion, parce que c'est un village qui est destiné notamment à accueillir les femmes qui ont été mises en esclavage sexuel par Daesh, ou qui sont veuves de guerre, en tout cas qui sont aujourd'hui des victimes, qui ont besoin d'un temps de reconstruction non mixte. Et moi qui suis généralement assez réticente par rapport à ces questions de non-mixité, je peux vous assurer que là, pour le coup, ça prend tout son sens. Bon, à Ginoir, par exemple, il y a une femme qui nous expliquait que les premières fois où elle venait au village pour aider, par exemple, au potager, puisqu'elles ont mis en place un potager bio sur le village, son mari, évidemment, n'était pas très content, quoi, qu'elle ait des activités à l'extérieur, qu'elle aille dans ce village de femmes. Et puis, petit à petit, ses fils sont venus aider. Et moi, un des jours où j'y étais, et bien en fait, il y avait toute la famille. C'est-à-dire qu'il y avait cette femme, puis il y avait ses quatre fils, et puis il y avait le mari. Et ils étaient tous en train de bêcher le jardin. Et c'est des petites, expériences comme ça qui montrent que petit à petit, les mentalités évoluent. Pour autant, tout n'est pas fait. Il y a notamment un volet qui nous intéresse tous ici et qui est inscrit dans ce petit document qui est le contrat social du Rojava, qui indique, c'est une sorte de mini-constitution, si vous voulez, dans ces différents articles, il y a notamment la question des communs et la question de l'écologie qui est inscrite vraiment dans le projet du Rojava. Pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, c'est probablement ce volet-là qui est le moins avancé. Alors, il y a des circonstances atténuantes à la chose, mais du coup, ça reste quelque chose de très présent. Donc moi, tous mes interlocuteurs m'ont parlé pendant que j'y étais. Et par exemple, il y a un projet, une campagne là, qui est en train d'être lancée, qui s'appelle Make Rojava Green Again, ce qui va vous rappeler deux, trois slogans, et qui est impulsé par la commune internationaliste du Rojava. Ce sont des volontaires internationaux qui sont partis pour contribuer à la révolution au Rojava, mais qui ne souhaitent pas le faire du côté justement de la résistance armée et de la ligne de front qui reste malheureusement vivace, et qui donc le font du côté de la société civile et qui ont lancé ce programme, qui est un programme de reforestation du Rojava, puisque là aussi, on se retrouve confronté aux mêmes questions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le régime de Bachar el-Assad a décidé que la Syrie du Nord allait servir de grenier à blé à l'ensemble de la zone, et donc on est passé à des monocultures intensives sur des hectares et des hectares et des hectares, ce qui non seulement a privé les populations locales de ressources vivrières directes en polyculture, mais qui en plus a aggravé un certain nombre de phénomènes de sécheresse et d'aléas climatiques qui, on le sait, sont aggravés par cette monoculture. Et donc aujourd'hui, il y a tout un programme pour revenir à de la polyculture, pour revenir à de la reforestation et pour revenir sur les interdictions qui avaient été posées. Ça s'est allé assez loin, hein, puisque le régime de Bachar el-Assad, à un moment donné, a carrément interdit aux habitants de planter des arbres, y compris dans leur jardin, avec un lien là aussi au territoire assez intéressant, c'est-à-dire avec visiblement une intention qui était littéralement en fait de déraciner les habitants, et c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enracinement et de sentiment d'appartenance qui se développe effectivement sur ces territoires majoritairement habités par des Kurdes. Donc il y a tout un travail de reconstruction qui doit encore se faire naturellement, qui se fait dans un contexte extrêmement tendu, je l'ai dit, en termes de conflits armés, et extrêmement tendu aussi en termes de gestion de la question des réfugiés, et notamment des réfugiés syriens. Je ne veux pas terminer mon propos sans parler du mur que j'ai longé sur plusieurs centaines de kilomètres qui a été érigé entre la Turquie et la Syrie du Nord, ni sans rappeler qu'aujourd'hui, l'Union européenne finance la Turquie sur un accord de rétention de réfugiés pour que ces mêmes réfugiés ne viennent pas jusqu'en Europe, et que donc aujourd'hui, concrètement, nous finançons la Turquie pour accueillir et retenir sur son territoire des réfugiés, qu'elle contribue elle-même à créer par ses agressions armées, et qu'en plus elle l'empêche de pénétrer sur le territoire turc par ce mur qui fait 900 km de long. Voilà, je tenais à le rappeler, parce que là aussi ça nous concerne de toutes et tous, par le biais de cette Union européenne sur laquelle on va avoir à se prononcer bientôt. Merci. Voilà, ne partez pas. Maintenant, c'est le temps du débat. Juste afin que le plus de personnes puissent s'exprimer, on vous demande de faire des questions courtes, le plus courtes et le plus brèves possible. Et comme ça, on pourra prendre le plus de gens possible. Nous avons un quart d'heure pour ce temps-là. Et on va prendre 3-4 questions et ensuite on fera des réponses plus globales. Voilà, donc n'hésitez pas à faire signe à un micro qui circule. Merci.
Comment passer d'une résistance sur un territoire à un projet qui soit positif en voie avec notre environnement? Par exemple, pour se battre contre l'aéroport, ça a agrégé de nombreuses personnes qui se sont mobilisées contre le projet, mais ensuite, lorsqu'il a fallu se projeter dans le monde d'après, certains ont abandonné la lutte parce que le projet est arrêté. Donc comment, une fois la lutte réussie, comment passer à l'étape d'après, construire un autre notre monde? Merci.
En fait, j'ai pas de questions. Mais je vais commettre un attentat poétique, si ça vous gêne pas, mais j'ai pas demandé l'autorisation, puisque c'est un attentat. Ça fait des décennies ici que chacun vit pour son confort.
Je suis désolée,
est-ce que les consciences, ça les
saisit,
que ça consomme comme des porcs, Quand on vit pour son petit moi, ses intérêts, ses ambitions, l'argent est un dieu. Et ses lois régissent les âmes et les passions. Comme ils sont grands et beaux, tes yeux. Ton sourire a tombé par terre. Je sais que t'as vécu l'enfer. Où trouves-tu la force d'être heureux? Et dire que tu as traversé la mer sur un vieux pneumatique, pensant que tu allais trouver ici un climat politique où la dignité est possible. Liberté et fraternité. Demandons-nous si les Français, au sens des mots, sont bien sensibles. On vous appelle des migrants. Ça n'explique pas vraiment pourquoi. Parmi vous débarquez là, ça ne fait pas de vous des gens, peut-être des oiseaux en déplacement.
Excusez-moi,
des animaux indésirables.
On sera avec plaisir, on l'entendra, mais à la fin.
Pour pas chercher un temps de débat. C'est proche que vous êtes en train de faire.
Mais non, mais je suis désolée, mais c'est un temps de débat. En fait, là, vous prenez la parole aux gens qui voulaient échanger, mais on l'écoutera avec grand plaisir à la fin. Voilà, c'est juste ça. Là, on est là pour échanger et à grand plaisir à la fin. Merci.
Bonjour à tous. Moi, je pense qu'il n'y a pas de. Je crois pas au hasard non plus. Je pense que ce qui s'est passé, c'est pas un hasard. Je suis artiste aussi, mais je ne vais pas faire ma torta non plus. Parce que je suis vraiment dans le débat, justement, il est ouvert. Je vous remercie de m'écouter. Et en fait, voilà, j'ai trouvé super bien le fait de prendre un exemple d'un village dont j'ai oublié le nom ancien. Et ça touche aussi beaucoup parce que je pense que moi, je suis vraiment plus porté sur les solutions. Les possibilités qui s'offrent à nous, en fait, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je suis étonné, en fait, qu'on n'ait pas parlé de Salon, la Drôme, en fait, qui s'est monté en assemblée citoyenne. Et moi, je crois pour ça, en fait, on a une capacité simplement de proposer une alternative politique, quoi, dans le vrai sens du mot politique, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est tous effrayés par la politique parce que, ça a été perverti, quoi, comme le mot anarchie, comme le mot démocratie. Pour des mots qu'on a définition, mais en fin de compte, dans la tête des gens qui sont bien souvent totalement opposés. Et voilà, je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé de ça, qu'est-ce que vous pensez de l'exemple de Saillant, par exemple. Et aussi, moi j'ai participé à l'expérimentation de ma voix, hashtag ma voix. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez aussi. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et aussi, voilà, j'ai eu une petite déception qu'on ne parle pas de ça, mais en fait, je pense que c'est peut-être un petit peu trop en avance et que. Le chemin d'être un petit bas, il conduit aussi parce que c'est des solutions, surtout en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on peut faire créer. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Je vous remercie.
Bonjour. Je voulais évoquer avec vous un sujet qui soulève de résistance de territoire, alors qu'il relève de la transition énergétique que tout le monde appelle de ses voeux. C'est les projets éoliens. Les projets éoliens, il y en a de qualités diverses. Mais il y a des résistances qui sont portées à la fois par des riverains et aussi par des associations à l'échelle nationale. Et je voulais savoir si c'était des cas que vous avez étudiés et comment dépasser en fait cette résistance de personnes qui ne veulent pas voir le paysage être modifié. Et c'est aussi des énergies qui ont effectivement des impacts. Comment dépasser finalement cette contradiction?
Alors, sur la première question, de toute façon, s'il y avait une recette magique, elle existe, enfin, on vous la donnerait, on vous l'aurait donnée. La première question qui portait, donc, comment on passe à l'alternative. Nous, on ne donne pas la recette miracle, peut-être que quelqu'un l'a ici, mais c'est plutôt que les luttes créent les conditions pour que ça se fasse. Voilà, déjà, c'est pas mal. Ensuite, évidemment, quand on passe au moment où on va construire l'alternative, c'est plus facile, évidemment, politiquement, de se coaliser contre un adversaire qu'on a identifié et de se battre ensemble contre quelqu'un que de se mettre d'accord sur ce qu'on va construire derrière. Donc forcément que derrière, il y a aussi des tensions qui apparaissent, comme c'est le cas dans Notre-Dame-des-Landes ou dans d'autres lieux, où les désaccords politiques plus profonds réapparaissent, etc. Mais c'est normal, et c'est plutôt... Je trouve ça plutôt sain, en fait. Je pense que derrière, il faut... les collectifs se reconfigurent, des gens qui sont intéressés par une chose plutôt que par d'autres vont se... j'ai pas grand-chose à dire, en fait, de plus que ça, sinon que, ces luttes, c'est pas la solution miracle, c'est simplement qu'on observe que, à l'endroit où il y en a, eh bien, elle crée les conditions pour que derrière, il se passe quelque chose. Voilà. Ensuite, non, j'ai pas la solution pour vous dire comment faire.
Alors, oui, enfin, bon, d'abord sur, sur la question de la ZAD, parce que évidemment on a tous suivi ça aussi avec beaucoup d'attention. Je crois pas, enfin, je crois que la ZAD a contribué et continue à contribuer, ne serait-ce si c'était que ça, dans nos imaginaires collectifs après le règlement de l'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui a été créé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes hein, sont des acquis collectifs, et y compris en termes de bataille culturelle. C'est-à-dire que concrètement, je pense qu'il y a eu une brèche d'ouverte dans effectivement cette espèce de colonisation de nos imaginaires. Cette brèche, elle a été ouverte à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et moi j'ai plutôt le sentiment qu'elle n'est pas du tout en train de se refermer, mais au contraire d'essaimer un peu partout. Et je trouve que la manière dont on croise aujourd'hui des mouvements de résistance locale qui s'auto-qualifient de ZAD, parfois d'ailleurs en ayant pas beaucoup d'attributs, soyons très clairs, et pour moi plutôt une marque de reconnaissance est tout à fait positive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'en fiche qu'il y ait concrètement occupation au sol, dans les arbres ou autrement. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une appropriation de ce terme, de ce mouvement et de tout ce qu'il recouvre en matière de remise en cause du système actuel. Donc voilà. Sur Saillant, donc moi j'habite à Die, dans la Drôme, donc pas très loin de Saillant. Évidemment, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt aussi ce qui s'y est passé. C'est un exemple que j'entends souvent revenir. Et c'est tant mieux, parce qu'on n'en a pas tant que ça, et tout ce qui peut servir de petite pointe avancée d'espoir fait du bien. Après, attention quand même à le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Saillant est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que concrètement, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une liste citoyenne qui s'est montée, et quand je dis liste citoyenne, chaque mot ayant son sens, c'est-à-dire que c'est pas la liste citoyenne comme on en a vu fleurir avec des données un peu partout. Donc c'est une vraie liste citoyenne qui de fait a pris la mairie de Saillant et a mis en place un système autogestionnaire de démocratie horizontale, directe, etc. extrêmement intéressant. Après, c'est pas forcément généralisable en tant que tel partout. D'abord parce que Saillant, c'est vraiment un petit village de la Drôme, quoi. Donc ce qui est possible à Saillant n'est pas forcément à Lyon, à Marseille ou à Nantes. Mais c'est vrai que c'est intéressant et que, voilà, moi il me semble que l'équipe municipale, du coup, c'est compliqué à tenir un mandat comme celui-là, se heurte à des difficultés qu'on connaît, qu'on a connues un peu partout à chaque fois qu'il commençait à y avoir des expériences participatives, c'est qu'il y a au début un espèce d'engouement qui fait qu'il y a plein de gens qui participent, qu'on n'avait jamais vu, dont on ne sait pas d'où ils sortent, et on est super contents. Et puis, au bout d'un moment, on se retrouve sur les mêmes noyaux durs de gens qui sont disponibles et qui tiennent sur la durée. Et là, je trouve, enfin voilà, on a encore quelque chose à inventer là-dessus, pour pas que tout repose justement sur ceux qui se sont présentés sur la liste. Mais en tout cas, oui, évidemment, c'est une expérience très intéressante. Et juste sur les éoliennes, on a tous été confrontés à ce sujet. Alors, de fait, il y a des projets d'éoliens industriels qui sont vraiment des projets capitalistiques, qui ne sont clairement pas recommandables, notamment quand vous avez des parcs gigantesques hein, qui vont donner lieu à des transfos, des lignes à haute tension, pour que tout ça parte en plus en consommation ailleurs et non pas sur le territoire qui la produit. Par contre, pour le reste, moi, c'est ce que je dis à chaque fois que je suis interrogée là-dessus. Hein, honnêtement, tous ceux qui me disent que ça défigure le paysage, mais regardez les lignes à haute tension qu'on a partout. Je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus joli, même si c'est une question de goût. Et puis, pour vivre dans la région la plus nucléarisée d'Europe, je peux vous dire qu'entre les risques qu'on encourt avec les éoliennes et ceux qu'on encourt avec les centrales nucléaires, je n'ai pas une demi-seconde à faire mon choix.
Juste un mot, j'allais dire exactement ce que tu as dit sur les éoliennes, donc je ne répète pas. Par rapport à Notre-Dame-des-Landes, je pense qu'on n'a pas assez, enfin il me semblait, quand je dis on, c'est de façon générale, peut-être eux, En tout cas, on n'a pas assez capitalisé sur le fait que ça a été gagné. Parce qu'il reste à construire, il reste à des choses à faire. Mais il y a quand même, ça a été gagné. Et ce n'est pas parce qu'un pouvoir politique a pris la décision, un pouvoir politique auquel on s'est affronté a pris la décision d'arrêter le projet pour le minimiser. Et je pense que ça a été un gros combat, un long combat, emblématique par rapport à toutes les questions qui traversent aujourd'hui, depuis deux jours, tous les thèmes abordés dans l'Alternativa. C'est vraiment un combat emblématique et je pense qu'on n'a pas capitalisé assez. Et il ne faut pas rester trop réservé là-dessus. Après, c'est vrai que par rapport à la construction, par rapport à l'avenir, tout reste à faire, ou beaucoup reste à faire. Il faut faire confiance à la diversité, à la biodiversité qu'il y a sur ce territoire. Mais il y a une richesse, il y a des expériences d'une grande valeur qui valent beaucoup plus que 1000 cabinets d'études pourraient faire sur que pourrait-on faire sur ce territoire. Il y a beaucoup de choses en germe et il faut traiter ça avec beaucoup d'humanité, beaucoup de tolérance et laisser l'imagination se faire. Moi, je pense qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance à ceux qui ont gagné qu'ils sont capables de construire ce qu'ils veulent demain, même si ça sera un ensemble de choses différentes.
On a encore le temps pour prendre une ou deux questions. Je crois qu'il y avait une question par là.
Oui, merci. Marc Morisset, je suis membre du Mouvement français du revenu de base. Et en l'occurrence, comme je demande la démission de M. Macron, je vais être direct. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la résistance citoyenne aujourd'hui qui est en train de se mettre en place autour du climat et ainsi de suite, que ce soit les pesticides, que ce soit tous les combats que l'on voit ici, est-ce que vous ne pensez pas que on devrait mettre plus d'énergie sur le nerf aujourd'hui du système actuel qui est en train de détruire le monde, qui s'appelle le capitalocène, donc le capitalisme. On est aujourd'hui dans une problématique majeure de démocratie réelle. Et donc, a été évoqué tout à l'heure dans les questions sur justement ces termes-là, ils ne sont pas assez utilisés. Aujourd'hui, on n'est pas en démocratie, on est dans une république. Donc, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt essayer tout de suite de dire comment faire une vraie démocratie et à partir de là, de reprendre la création monétaire, de recréer justement ces résistances que vous évoquez au travers, je dirais, de certaines formes d'autonomie qui permet justement de se libérer du système actuel. Et quand j'entends l'exemple de Corinne, sur justement ces territoires qui ont su quelque part lier l'enfant, la femme, les générations précédentes et ainsi de suite, ils avaient surtout entre eux déjà une forme d'autonomie et de liberté qui leur permettait d'être acteurs de leur propre destin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'avance pas encore assez vite, tous ensemble, parce que j'ai tendance à être un peu l'avocat du diable, tel que ça a été évoqué tout à l'heure dans un autre débat avec Eric Piolle et Daniel Carême. Finalement, on se rend compte qu'on est dans des cas de clocher, des fois, justement, entre les mairies, parce qu'il y a une prise de pouvoir. Mais il y a aussi, aujourd'hui, l'urgence climatique, et ce qui fait que, si on parle de territoire, indirectement, on peut dire que peut-être qu'on sera en opposition entre les territoires. Parce que, justement, il manque une certaine forme de cohérence. Et la cohérence, à mon avis, elle passe au niveau démocratique, sur un niveau supérieur. Et je pense que de ce côté-là, il faut y travailler clairement avec les bases du système actuel qui nous nuit à tous, c'est la reprise en main de cette création de l'État. Voilà. Donc je pense que Carole peut en parler, puisqu'elle était aussi dans ce film. Corinne, dans le film Un revenu pour la vie, et je crois que ça fait partie du débat aussi, il me semble que la création de l'État est essentielle. Voilà, merci.
Bonjour. Petit complément de cette information, quand vous disiez comment se mobiliser sur quelle lutte, quel projet, dit le plus près de notre territoire, c'est vrai. Mais alors c'est vrai aussi qu'il faut jouer avec la coopération internationale, proche, transterritoriale. Je donne un exemple dans les grands projets inutiles et imposés. À Montpellier, nous avons reçu les Italiens, je crois qu'il y a deux ans, en vélo qui venaient pour la table de vélo Chita. Et donc ils étaient passés à Montpellier pour se battre contre cette gare fantôme qui a quand même eu lieu. Elle a eu les honneurs du canard enchaîné, la Megève. Alors ce qui est important, c'est quand même quand on a pris, parce que l'ensemble des cyclistes n'ont pas pu être là à Montpellier. Pourquoi ? Parce que certains avaient été emprisonnés et d'autres étaient restés sur place pour essayer de les en sortir. Donc à la fois, on avait un même projet, mais deux systèmes politiques différents par rapport à nos vies.
Bah, très honnêtement, moi je ne me sens pas trop de lancer le débat sur le revenu de base et la création monétaire maintenant, parce qu'on en est à la conclusion, mais de fait, ça mérite débat, effectivement, et je continue à penser que le processus en soi est au moins aussi intéressant que l'arrivée en ce qui concerne le revenu universel. Pour poursuivre évidemment ce débat-là. Après, c'est aussi un témoignage effectivement sur la manière dont des luttes peuvent se rejoindre. Moi, je suis conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, donc je connais bien le cas de l'Union-Turin et je suis moi-même allée dans le Val de Suse effectivement rencontrer les militants côté italien. Et effectivement, on a tout intérêt évidemment à multiplier ces occasions à la fois de se soutenir, mais pas seulement de se soutenir, d'apprendre aussi les uns des autres. Et puis, comme toujours, et ce sera mon dernier mot, mais de créer des réseaux, de tisser ces liens qui, aujourd'hui, parfois, sont un peu frustrants parce que finalement, on a l'impression que ça ne débouche pas forcément toujours sur des choses très notables, ça ne débouche pas toujours sur des campagnes communes ou des actions ou je ne sais quoi. Mais au-delà de ce sentiment que parfois un peu ingrat, en réalité, tous ces liens qui se tissent à travers les réseaux de lutte communes sont aussi autant de réseaux qui, dans l'avenir, et peut-être dans un proche avenir, pourront se révéler très utiles, parce qu'on ne sait pas à quel moment et où le maillon de la chaîne va craquer, mais il est quand même de plus en plus probable qu'il y ait un maillon qui craque. Et que à ce moment-là, on aura tout intérêt à s'être vus, organisés les uns les autres avant, au moins de temps en temps, pour pouvoir faire front et que ce ne soit pas le camp d'en face, et notamment du côté des fascistes, que ça s'organise à nos dépens.
Ouais. Oui, en fait, la conclusion est très bien, je veux dire, on va rester là-dessus. Non, mais c'est bien de rester là-dessus.
Non, je trouvais que c'était une conclusion.
Ouais, t'as raison.
La conclusion est
qui aurait pu être collective.
C'est parfait, merci beaucoup. Merci à chacun.